Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenue dans Next Episode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, que ce soit Apple Podcast, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, wow, faut voir. On s'écharpera bien évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Aujourd'hui, tout le monde en combi, ambiance spatiale, pour parler de Perdu dans l'espace, la nouvelle série Netflix. Et comme il se doit, les débatteurs de l'univers ont été castés pour des raisons d'expertise bien précises. Il vient de Mars, elle vient de Vénus, Renan Crowe, Charlotte Bloom. Oui, on peut la ressortir, celle-là, on s'en fout.
Ça marche.
Bienvenue Charlotte.
Merci.
Et avant de... Ouais, toi, t'es là tout le temps. Hein. C'est la chaleur humaine. Attention, avant de décrocher la Lune, l'info du jour. Ça fait tellement plaisir. Parler responsable des reboots de Hawaii Police d'État et MacGyver devant vos yeux ébahis, voici le reboot de Magnum, oui. Avec dans le rôle de Tom Selleck, Jay Hernandez, vu dans Scandale et Nashville, à la réalisation Justin Lin, oui, celui-là même des Fast and Furious, parce que pourquoi pas, et petite originalité dans cette version, Higgins a un prénom et c'est Juliette, oui, Higgins sera donc une femme. Est-ce que vous replongez, messieurs, dames?
Charlotte, elle a atterri. Comment une femme dans un casque? Bah, je sais pas, Higgins. Ok, non, mais sérieux.
Elle aura une moustache ou pas, celle-là? Oh, bah, je sais pas, les gars. Non, ça a l'air pourri, hein. Enfin, ça sent le réchauffé. Ça sent le plat, tu sais, que t'as mangé la veille, que t'as remis au micro-ondes, que t'as oublié, donc que tu le remanges. Et
t'as
qu'après,
mis
tu
un peu
dis,
de crème pour des liandes, peut-être, voilà, on sait jamais.
Et t'as mis du gruyère à la fin, tu sais.
Ouais. Mais fais gaffe, des fois, c'est bon, ça.
Et bah, c'est ça le problème. Des fois, c'est bon. Donc, on goûtera, mais on n'est pas sûr de mettre sa serviette.
Mais
quoi.
Surtout, quelle idée de faire Magnum sans Tom Selleck, en fait, bah, ça n'existe surtout... pas.
Alors, est-ce
c'est
qu'ils vont faire Magnum
improbable.
Avec des Esquimaux? Magnum, Esquimaux, oh, bonsoir.
Là.
Merci, retrouvez-moi en première partie de Bernard Mabille.
Cette émission va être très très compliquée. Changement de destination, quittons Hawaï.
We're lost. No kidding. This is Will Robinson of the 24th Colonist Group. I'm the first human to discover evidence of an alien intelligence.
What is that?
It's okay.
Will!
He's with me.
Danger, Will Robinson.
Danger Will Robinson. La famille Robinson ou Robinson, si on regarde en VF, ce que j'ai fait, parce que j'ai regardé avec mon enfant, a été sélectionnée pour reconstruire sa vie ailleurs, dans un monde meilleur. Comprenez par là, pas du tout sur la Terre, parce que c'est un petit peu galère. Mais suite à un, on va dire, accident de parcours, les voilà dans un environnement pas du tout semblable à celui qu'ils espéraient. Hein, voilà. Alors, avec ce Lost in Space, la plateforme Netflix renoue-t-elle avec la bonne science-fiction qui s'y colle?
Oh, honneur aux nouvelles, Charlotte.
Mais quoi? Attends, quelle est ta question?
Est-ce qu'on renoue avec de la bonne science-fiction?
Non. au début, je me suis dit, ah, c'est chouette, il y a de la bonne musique. Bon, super. Après, je me suis dit, le petit gamin, il est mignon. Et puis alors après, ça m'a fait chier. Donc en fait, c'était
ordre.
Cool pas longtemps du tout. Non, mais en fait, je vois l'intérêt de faire un remake parce qu'aujourd'hui, on a des technologies plus poussées, donc on peut faire de très belles images ouais. Et ça peut devenir presque crédible. J'ai dit, c'est un gros presque. Hein. Mais sorti de là, je vois pas très bien l'intérêt, en fait.
Bah, moi, je suis quand même un peu plus fasciné, mais de manière un peu perverse. C'est-à-dire qu'on est face à un objet qui lorgne en permanence entre la méga-production et la série B cheapos, bien gênante. Et alors, vraiment, moi, j'ai cru à un instant qu'il y avait Dolph Lundgren ou Nicolas Cage qui allait arriver
mais
tellement... Mais voilà, c'est-à-dire qu'on flirte quand même avec
je
le
Je crois Z. que tu m'as déjà dit ça sur l'autre série de SF qui s'appelait...
Altered Carbon.
Altered Carbon, voilà.
En fait, SF, Dolph Lundgren, Nicolas Cage. Non, mais c'est d'ailleurs le problème de Netflix, c'est qu'ils font de la SF chipou, quoi, en fait. Ils font de la SF avec, c'est tourné dans les studios d'AB Productions, quoi. Il y a un truc, et d'ailleurs, on va être très clair, ça ne s'appelle pas Lost in Space, ça s'appelle Lost in Massif Central. Ça ne se passe pas dans l'espace.
Alors, si je peux me permettre, la réaction de mon enfant, qui a donc 8 ans et demi, hein, une fois que la capsule s'est crachée, parce que c'est ça qui se passe, cette famille se crache sur une planète hostile. Alors, il a fait, ouais, c'est génial, on dirait la Terre.
Voilà.
Donc, c'est une analyse
un
assez.
Peu les vacances au ski, quand même.
C'est ça. Et tout le premier épisode, ils galèrent à Megève, ils n'arrivent pas à trouver un chalet et tout, c'est la loose.
Arrête de mentir sur l'intrigue, s'il te plaît.
Mais non, mais c'est ça. Enfin, vraiment, il y a un petit problème de crédibilité. C'est-à-dire que ça s'appelle Lost in Space, et en fait, ils passent leur temps dans la neige, dans le sable, dans la tempête. Ça manque d'étoiles et ça manque de vaisseaux spatiaux. Après, il faut reconnaître que c'est très habilement fait. Enfin, je sais pas si. Moi, j'ai trouvé ça nul, mais génialement nul. C'est-à-dire, ce nul où je me dis, mais quand même, j'ai envie de savoir la suite, où les gamins sont mignons. Il y a ce fameux robot extraterrestre qui est un peu cool, qui est un peu flippant. Il y a quand même un savoir-faire dans l'écriture et dans le montage et dans le rythme qui fait que même si c'est trop long, en fait, il y a un moment où ça vous attrape. À la fin, là, à chaque fois, les épisodes que j'ai vus, les 20 dernières minutes font que c'est un peu cool de voir la suite.
Ah, mais il faut y arriver aux 20 dernières minutes, parce que c'est quand même la série de tous les faux suspens de la planète. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, tu dis, il y en a un qui va mourir. Non, personne meurt.
Mais non, pas les enfants.
Ah,
Charlotte,
si,
Charlotte
les
on
enfants,
ne tue pas les enfants
parce que
dans
tu
les
dis
séries.
Les enfants, ils sont mignons. Il y a un enfant qui est mignon. Après, c'est la famille de tous les. Tout le monde se déteste.
Ah, mais c'est l'angoisse.
C'est, on dirait, tu sais, la famille qui te fait flipper quand t'es à l'école, bah, c'est eux.
Et c'est surtout, c'est l'enfer, c'est partir en vacances avec papa et maman qui se détestent, les deux sœurs névrotiques et le gamin surdoué.
Qui était au bord du divorce.
Bah oui.
C'est un peu en analyse dans l'espace.
J'adore les engueulades papa, maman et tout, alors que dans une planète, tu t'en fous, ça va, quoi. Il y a un moment.
Bah, surtout quand t'es en danger, en fait.
C'est
priori,
ça.
Tu...
Mais je trouve qu'il y a un truc bizarroïde quand même. C'est-à-dire que cette espèce de manière de prendre une famille dysfonctionnelle, de la foutre dans l'espace, mais en fait, c'est pas dans l'espace, c'est à Megève et tout. Il y a un truc un peu rigolo à raconter.
Arrête de dire à Megève, hein, de soyez pas premier degré. En fait, ils sont vraiment perdus sur une planète glaciale.
Et globalement, vous verrez, ça ressemble à Megève.
Voilà.
Et il y a aussi un problème d'antagoniste. Enfin, on peut le dire, il y a un personnage un peu flippant, un peu inquiétant qui est joué par Parker Posey.
Alors que je suis toujours très contente de revoir partout
aussi,
où elle arrive.
Mais en fait, on sait qu'elle est méchante tout de suite, non? Enfin, je sais pas, Charlotte. Nous...
Elle fait que des rôles de ça.
C'est ça.
Donc, il y a un moment, quelle est la surprise? Faites un contre-emploi. Ce serait tellement bien un contre-emploi. Non, mais ce qui est fou, c'est que tu tapes quand même cette famille où tout le monde est désagréable, con, pas sympa, surdoué, énervant. Tu dis cool, des nouveaux personnages, les mêmes. Les mêmes. Personne n'est sympa dans cette série, à part cet enfant mignon comme tout, le Will.
Sachant qu'il est
et
mignon.
Et qui joue bien en plus,
et
pour le coup.
Non, donc, mais il est mignon relou quand même. Hein. Il est mignon, genre, je fais des crises de panique et machin. C'est
mais
bon.
C'est un enfant, ouais. Quel est ton problème?
Non, cette personne est un grand malade. On parle d'un enfant qui est censé avoir dans la série, j'imagine, entre 8 et 10 ans.
Et alors?
Qui se retrouve face à des aliens seul, parce qu'il faut quand même expliquer que dans le premier épisode, le père de ce gamin le plante, en fait, le laisse en disant, il y a un autre enfant à sauver. Mais oui, mais lui, il a 8 ans, tu le laisses tout seul, en fait.
Il faut expliquer qu'il plante le gamin parce que la gamine relou, qui est plus forte que tout le monde, s'est jetée dans l'eau qui glace et qu'elle est glacée. C'est quand même la famille des casse-couilles, quoi.
C'est la famille des pas malins. C'est-à-dire que la nana, elle a plongé pour aller chercher des batteries. Elle se retrouve coincée dans la glace. Et sa sœur, qu'est-ce qu'elle trouve à faire? Lui lire Moby Dick sur son téléphone qui n'a plus de batterie pendant 3 heures. Est-ce qu'on peut être sérieux?
Pendant que la mère s'est quand même semi-pété une jambe et qu'elle ne peut pas bouger. C'est quand même.
C'est les gens où, quand t'arrives en vacances, dans la maison d'à côté, tu les vois, tu fais oh putain, merde, on va pas. C'est ça, c'est l'enfer. En fait, c'est camping.
C'est les tuches dans l'espace.
C'est les tuches. C'est exactement ça. Ce serait presque plus drôle que ce soit les tuches. Tu sais, on fait des frites et tout, ça aurait été rigolo. Non, il y a mais en même temps, encore une fois, c'est ça qui est rigolo, c'est que ces personnages sont tellement antipathiques. Ils sont, alors les gamins sont surdoués, mais alors, j'ai jamais vu ça, hein. C'est-à-dire qu'ils sont là, oui, le truc quantique et
ils
tout ça.
Ils sont entraînés.
Non, mais ouais, mais ça, c'est pas possible. Ça marche pas, en fait. Ils sont surentraînés et en même temps, ils ont des réactions de gogol.
Bah, le père est militaire et la mère est, genre médecin, c'est ça?
Bien
scientifique, chercheuse.
On a bien compris que le père, il est militaire,
quoi.
Le père, il est militaire, il est dur. Oh là là, mais il est un peu beau. Donc
il est pénible. Hein.
Non, il est beau, le père.
Oh, je n'aime pas cette personne. Je l'aimais pas dans Black Cell, je l'aime pas à nouveau, n'aime pas.
Je me suis dit, tiens, il a un côté. En fait, ce qui est assez malin, c'est qu'il y a un côté papa fait vraiment papa, maman fait vraiment maman, les deux sœurs.
Et Parker Posey fait vraiment méchant. En fait.
J'ai adoré la poule de l'épisode 2. J'ai adoré la poule de l'épisode 2.
Bah, c'est peut-être le personnage le plus sympa de la série.
Et c'est vraiment la poule, c'est chouette, quoi.
Non, faut quand même dire ce qui est. Le premier épisode part. Pas si mal, en fait. Il y a un système de narration qui est pas inintéressant. Alors oui, on l'a déjà vu, on fait des flashbacks. C'est-à-dire qu'on est plongé dès la première scène au cœur de l'action. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se cracher et après, au fur et à mesure de l'épisode, on remonte.
Moi, j'ai cru que je m'étais trompé et que j'avais pris l'épisode 2. Donc j'ai bugué pendant 10 minutes en disant, mais.
Tu fais partie de cette famille, toi, t'es aussi.
Je suis aussi Jean Cœur, effectivement.
Je suis aussi bête que.
Mais partez pas en vacances avec moi, hein. Je suis un casse-couille monumental.
Non, mais alors, en revanche, c'est. dans un registre qu'on va qualifier de divertissement familial, ça peut se regarder avec des mômes, hein. Ça les captive, hein. Il y a un truc un peu...
Est-ce que c'est si... Il y a quand même deux, trois moments de violence, de trucs d'angoisse. Est-ce que, toi qui l'as vu avec ton enfant, ce que tu ne cesses de nous répéter parce que tu t'es reproduit, eh ben, est-ce que ta fille a eu peur?
Non.
Mais les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont pas peur comme nous. Moi, j'ai vu E.T. et j'ai pas dormi pendant 2 mois. La gamine de mon mec, elle a vu E.T. à 6 ans, elle s'en fout complètement. Enfin, je veux dire, c'est fini tout
parce
ça.
Que moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même 2-3 moments angoissants, de trucs un peu dangereux, les personnages sont un peu en danger.
Non, même la scène de la fusillade dans l'épisode 1, avec la fameuse scène de Parker posé où on comprend tout de suite qu'elle est méchante parce qu'elle vole la veste à un mec qu'elle se crevait sur le bas-côté. Ça l'a pas effrayé plus que
Parker
ça.
Posé,
hein.
Ça tous
c'est
les
tellement
jours.
Génial. Le mec est en train de crever. Attendez, je vais vous enlever votre veste. Vous m'aidez? Non, pas du tout, je la prends, je peux pas.
C'est hyper bien fait. J'étais là. J'étais dans l'espace avec toi.
Mouglalis, par cœur posé, c'est mes deux.
Je trouve qu'il y a un problème de narration, de rythme, de montage. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de voir la suite. Donc moi, c'est le mystère.
Ouais, moi aussi, je crois.
J'ai un peu que c'est un peu un syndrome Casa de Papel, quoi. C'est-à-dire que Casa de Papel, moi, je trouve ça vraiment pas bien.
Tu le prononces très mal.
Casa de Papel,
ouais,
comme ça.
C'est mieux.
J'ai l'impression que Netflix sont en train de se mettre à produire des chouettes daubes, en fait. Et c'est plutôt pas mal d'avoir des chouettes daubes, en fait.
Pourquoi tu dis commence à... Attends, ils en font depuis qu'ils existent des trucs
Parce que là il y avait des trucs Netflix où on s'en foutait, mais là c'est le truc Netflix dont on s'en fout mais que tu suis quand même.
Mais arrête de suivre.
Non, je ne peux pas, je suis faible.
Non, mais moi je vais poursuivre aussi. Hein,
mais tu veux savoir où c'est Parker
Posé? Non, mais j'ai du temps libre en plus, si tu veux, c'est un peu ça. Non, mais il y a quand même un truc qui est très fascinant avec cette série, parce que sauf erreur de ma part, c'est quand même le remake d'une série des années 60 qui avait été diffusée sur Feu la 5 chez nous dans les années 90, avec le mec qui jouait Zorro.
Jean-Claude
Brouet. Pour le savoir. Et que cette même série des années 60 avait déjà eu droit à un remake au cinéma avec Matt LeBlanc, ne l'oublions pas. Qu'est-ce qui fascine dans cette histoire en fait? Parce qu'on en a vu des histoires de rencontres du troisième type, de gens perdus.
Je sais pas.
Je sais pas, la possibilité.
C'est
de
très
faire
étrange.
Un énième drame familial ailleurs. La grosse trend, la preuve, hein, notre reboot de Magnum, là.
Ouais.
La grosse trend du réchauffé aussi.
Oui, puis du récit qui est à mon avis très simple à raconter, c'est-à-dire c'est une famille, ils sont perdus dans l'espace. Bon, point. Voilà, c'est très simple à comprendre. Après, moi, ce qui me fascine, et la Lost in Space originale, c'était vraiment chaque épisode, une planète, des trucs qu'ils essayent de trouver. Là, je trouve que en fait, ça ressemble presque plus à Lost par moment. C'est-à-dire ils sont sur cette planète.
Mix Jurassic Park,
Meet the 100, des trucs de jeunes.
Mais d'ailleurs, sur Jurassic Park, je crois qu'il y a des moments où la musique est très appuyée. Mmh. Et je pense qu'à quelques notes près, le mec a dû un peu se dire, tiens, ça va passer crème. Ouais. c'est un peu limite. Hein. La scène où le gamin, dans le premier épisode, la scène où le gamin arrive et la montagne s'ouvre devant lui, là, il regarde au loin, c'est un peu genre...
J'ai déjà vu ça.
Mais surtout qu'il dit, il y a des animaux et sûrement d'autres animaux qui les mangent. Et tu fais, non, quand même pas les dinosaures.
Peut-être de vieux animaux. Ah non, c'est des robots.
Mais je trouve que ça manque justement aussi de fantaisie, de fantastique là-dessus. C'est-à-dire qu'à part le robot qui est un peu cool. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi dans l'épisode 1, le robot parle et pas dans l'épisode 2? Est-ce qu'ils ont viré le mec qui faisait la voix du robot entre le 1 et le 2? Dans le 1, il dit « Bonjour, Mr. Robinson, je fais très très bien le robot. »
Non, il dit pas « Bonjour », il dit « Danger », c'est le seul truc qu'il dit.
Oui, mais
danger,
là, dans le 2, il ne parle plus. Alors,
Mais il n'y a peut-être plus rien à dire. c'est peut-être l'inverse de nous. Nous, on est là, on parle sur un truc qu'on n'aime pas, on argumente, puis il n'a rien à dire, il dit rien, c'est comme
il
ça.
Il boude, il est comme ça. Non, je n'ai pas envie, je m'excuse.
Non, j'ai boude.
C'est Céline Dion, il est à faune, il n'a pas le droit
boude,
de parler.
Ça ne m'intéresse pas du tout, votre histoire.
C'est ça. Non, mais j'étais un peu... Voilà, le robot, il est cool, et en même temps, en fait, après, il est plus très cool, quoi.
Attends, il a aspiré toute l'eau du vaisseau, quand même.
C'est trop génial.
Je suis désolée, c'est hyper cool.
Il fait petit chauffage de terrasse également quand les gens ont froid, il écarte les mains et
ça c'est quand même cheap.
Franchement, pour manger en terrasse, c'est cool.
T'as un méga robot de ouf et le mec qui fait radiateur. Mais c'est ça qui est rigolo à regarder.
À la demande de l'enfant.
Qu'on conseillons à nos auditeurs, vraiment regardez ça. Alors le Netflix and Chill a été inventé pour ce truc-là. Hein,
mais
c'est trop long. On est d'accord que ça dure, chaque épisode dure une heure. On enlèverait 20 minutes de chauffage terrasse, ce serait mieux quand même.
Enlever 20 minutes de chauffage terrasse.
On peut faire des notes à Netflix, on leur envoie. Tu sais,
je suis pas sûre qu'ils les prennent.
Non.
Mais alors, le saviez-vous? En 2003, il y avait un pilote déjà avec cette série réalisée par John Woo. Et en fait, comme ça avait été budgété beaucoup, enfin bien au-dessus en tout cas de ce budget-là, la chaîne a dit niette.
Faisait-il du kung-fu?
Mais cette histoire, quoi. C'était en 2003.
Il faisait
en fait.
Du kung-fu dans l'espace ou pas, John Woo?
Non, mais John Woo fait pas de kung-fu, chaton.
John Woo de Kung Fu, c'est un John Woo.
Non, mais il fait pas que du Kung Fu, John Woo.
Ah, moi, c'est du Kung Fu dans l'espace.
Films, en fait.
Pas, pardon, mais pour moi, John Woo, c'est un grand réalisateur aussi de films d'action, trucs comme ça.
Oui, donc. Mais lui-même ne.
Oh là, arrêtez de me poser des questions. S'il y avait du coup. Alors, Charlotte,
c'est
tu vas trancher.
Comme si tu disais Martin Scorsese, ce mafieux, en fait.
Charlotte, tu vas trancher. S'il faisait du Kung Fu dans Lost in Space, est-ce que ce serait pas un peu mieux?
Non.
Oh merde.
Mais non, mais parce qu'ils sont chiants entre deux prises. Enfin, tu vois, c'est genre une prise A, ceinture. Tu savais que les scientifiques. Non, ta gueule. Non, franchement.
Elle est vraiment. Les deux sœurs sont vraiment horribles. Hein. C'est vraiment le point noir.
Non, mais elles sont insupportables. Insupportables. Mais moi, j'avoue, je suis quand même un peu hypée par le personnage de Parker Posey. J'ai envie de voir jusqu'où ça va aller, quoi.
En fait, peut-être la conclusion, c'est faites une série avec Parker Posey, en fait.
Mais non, parce que ça ne marche que si elle peut pourrir d'autres gens. Si elle est seule, pour le coup, c'est, ça n'a aucun intérêt. La méchanceté ne marche que si tu peux être désagréable.
Après, je pense encore que ça peut être un sleeper hit à Casa des Papel, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu arriver et que ça va cartonner, ou ça peut être une grosse vautrade netflixienne. Hein.
Parce que la série me donne pas l'impression d'être plus cheap que ça. Enfin, hein, je crois qu'il y a quand même, ils ont mis un petit peu d'argent quand même.
Dans
même
le pour Megève.
Ouais, non, mais
Massif Central.
Non, mais c'est vraiment, on est d'accord que c'est pas possible de voir une série Lost
non,
in Space.
Non, mais c'est pas cheap. Tu peux pas dire que c'est cheap.
Non, les effets spéciaux sont pas mal.
C'est juste que maintenant, on a cette espèce d'image de la série pleine de thunes, machin, et que t'as envie de voir plein de thunes. Et tu vois un peu de thunes.
Bah, l'intérieur du vaisseau, c'est quand même pas fou.
Mais qu'est-ce
quoi.
Que tu veux réinventer les codes
moi,
du vaisseau
maintenant. Je voudrais des nouveaux vaisseaux, je voudrais des choses un peu nouvelles. Je voudrais, voilà. Les combis, elles ont l'air quand même. Il y a des moments où ça fait un peu acteur en combi, à Marne la Coquette, en train de jouer. Voilà, c'est un peu...
Non, moi, je peux dire quand même ma réplique préférée du premier épisode. Ils arrivent donc sur cette planète hostile et la mère, qui est donc blessée, tout le monde est autour d'elle, elle enlève son casque. Et son mari fait « Non, ça ne va pas, n'a pas testé l'air !» Elle le regarde et fait « Si tu l'as fait pour nous, ta combi est trouée. Si l'air avait été empoisonné, on serait déjà tous morts. » C'est une façon de voir la vie, quand
ils
même.
Ils sont aussi chiants que ça, exactement. C'est-à-dire
ils jouent bien les gens chiants.
Ils sont en train de se donner des espèces de leçons en permanence.
Mais on est d'accord que la famille va se ressouder au fur et à mesure et qu'ils vont revenir à la fin.
C'est le seul but de la série.
Papa ne quitte pas maman, maman ne quitte pas papa dans l'espace.
Bah, déjà, à la fin de l'épisode 2, j'étais contente que tu sois là aujourd'hui. Oh non, déjà.
Oh, mais roulez-vous des pelles.
Ça fait 24 heures.
Attends que Parker Posey arrive, tu vas voir, ça va te faire tout drôle. Hein, vraiment.
Bah, ça manque quand même, ouais, effectivement, d'un peu d'antagonisme un peu rigolo. Elle est. Parker Posey, ça va tenir, à mon avis, 2-3 épisodes avant qu'ils disent elle est peut-être très très méchante. Mais oui, c'est Parker Posey, les gars, elle est méchante en fait.
Vous avez jamais vu ses films
ou
quoi
jamais... C'est ça.
Mais elle est méchante ou elle est folle? Parce qu'elle a quand même une tenue et un côté un peu je sors de l'asile dans le vaisseau avec son frère.
Elle peut faire les deux.
Méchante, je pense qu'elle a la masse, non?
Elle peut faire les deux.
Mais elle est très méchante à la fin de l'épisode 2.
Double shot.
Ah bah ouais.
Et j'aime bien dans l'épisode 2 la comédienne qui a vraiment le meilleur rôle. Elle joue le corps dans le coma. Et donc il trouve un personnage dans le coma et il la porte comme un sac pendant tout l'épisode.
Des fois elle bouge les sourcils.
Des fois elle bouge les sourcils et je me suis dit, franchement, c'est le cachet le mieux payé de Netflix. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien et elle est dans là pendant tout l'épisode. Et la poule. Moi j'ai adoré la poule, vraiment. C'est un peu trop surécrit pour ça. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des détails aussi un peu stupides. C'est que la série est tellement concrète qu'en fait ça devient un peu ridicule. Ça manque un peu de surprise.
Et puis, c'est-à-dire que là, pour le coup, les dialogues, c'est pas souligne l'action, c'est surligne l'action.
Ah bah, ils te disent ce qu'ils sont en train de faire.
Quand le petit, dans le premier épisode, je spoil rien, c'est le premier épisode, on a le droit. Le petit garçon est très, très en danger sur un arbre, et il y a le feu à la base, et il regarde l'alien qui est assis en face de lui, et ici la branche, fait toi, il n'y a pas de raison pour que tu meurs. Et ici la branche, et l'alien tombe, en fait, je ne comprends pas, parce que du coup, tu es en train de l'envoyer dans le feu. Mais rien, il y a des trucs un peu.
Il y a un peu la même dans l'épisode 2 où il faut que l'on prenne la voiture. Ah, il y a une voiture, mais il n'y a pas de roues à la voiture. Et si on mettait des roues à la voiture?
Mais où en trouver?
C'est ça.
Comment passer un quart d'heure sur un truc de 20 secondes?
C'est ça. Mais
et
c'est...
comment couper une branche avec un fil à beurre également?
Ça, c'est bien.
C'est vrai qu'il a. On ne sait pas d'où ça sort. Avec une ficelle.
Alors, moi, je tiens à dire que quand j'ai regardé cet épisode, la personne avec moi a dit: tiens, j'utilisais ça pour scier des os. Mais il est vétérinaire. Donc, en fait, ça existe vraiment.
Attends, il y a deux infos. Il est vétérinaire et il scie des os.
Oui.
Il faut réparer les animaux.
Non, parce que quand tu fais des études vétérinaires, en fait, tu t'apprends à disséquer des animaux. Et donc, ce fil sert à scier des os. Voilà. Alors, la question, c'est: peut-on donner ça à un enfant?
Et pourquoi il a ça dans sa poche?
Exactement. Cet enfant est dangereux, en fait, il est psychotique.
C'est l'enfant de Parker Posey. Ça va être ça le twist de fin. C'est en fait
bien.
L'enfant de Parker
Posey. Non, mais par
Posey.
Contre, il faut vraiment qu'il sorte du Massif Central et de cette planète, parce que sinon on va vraiment s'emmerder, en fait. Donc, moi j'en ai vu 3 et pour l'instant ils sont toujours pas partis.
Moi j'ai entendu parler de Montpellier pour la suite, mais après c'est bon, je suis pas sûr que.
On arrête à Toulouse et après ils se perdent en Lozère. La Lozère, ça va être fou.
Garde Cannes à la Boca. Chelou cette planète. J'espère qu'on vous a donné très envie de regarder cette série, parce que quand même c'est beaucoup de plaisir. Dans un registre proche, ou alors plutôt lointain pour le coup, vu que vous avez tous les deux détesté cette série, une recommandation, je sais pas, d'une bonne série SF, d'une bonne série par cœur posé sympa.
Et ben moi j'ai une série française qui est très chouette, qui s'appelle Mission, qui a été diffusée il y a 2 ans sur OCS si je ne me trompe pas, qui est disponible en DVD et qui est la preuve qu'on peut faire une série de SF qui se passe dans l'espace ici sur Mars, que ça ressemble pas au Massif Central et que en plus en France il y a vraiment une stylisation, un récit, c'est pas parfait, mais c'est vraiment beaucoup plus tenu et beaucoup plus amusant à regarder et beaucoup plus divertissant, je trouve, parce que beaucoup plus chiadé en termes de mise en scène que Lost in Space. Ça s'appelle Mission et c'est disponible en DVD et ils sont en train de tourner la saison 2 et c'est vraiment cocorico, un truc français qui a de la gueule.
Mais t'as un souci avec le Massif Central ou pas? Parce
que ça m'a vraiment choqué dans la série, c'est-à-dire que j'adore le Massif Central et j'embrasse tous les gens du Massif Central s'ils captent la radio.
J'embrasse tous les massifs centraliens.
Bien, exactement.
J'adore vraiment tout ce qui est cette région.
Exactement.
Charlotte, une recommandation?
Non, mais quitte à parler de choses qui sont en cours, voire anciennes, je pense qu'à chaque fois que quelqu'un est tenté de regarder Lost in Space, bam, Battlestar, place. Sert à rien. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a la déesse des séries SF qui existe, regardez la déesse.
Tu ne dois pas regarder Lost in Space, regarde Battlestar comme ça.
Tu sais, j'ai envie de hacker Netflix pour qu'à chaque fois que quelqu'un le lance, ce soit Battlestar qui se mette à la place.
Ah, c'est vrai que Battlestar, c'est bien.
Ben voilà, ce sera ça la conclusion.
Ben oui.
Lost in Space, bon, c'est curieux. Et Battlestar, c'est quand même nettement mieux. Voilà.
Émission, c'est bien. Pourquoi mon Marocco, elle n'est pas prise en compte?
Mais elle est super, mais bon, ton aversion pour le Massif Central me dégoûte un peu, je dois dire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Charlotte, merci Renan. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure.
Le mercredi, c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio.
Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film.
Où en fait, moi je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi.
Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio.
Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio.
Avec plaisir, merci beaucoup.
À 19h et sur toutes les applications podcast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.